Parce que
c'est
au niveau du sang, parce que donc la petite aiguille part, sort de la machine, ça veut dire que c'est cassé.
Ah bon?
Alors bon. C'est l'enregistrement DE744, dit E744, la date c'est le 12 décembre.
Le 12, oui.
Ah, une séance qui dit le jour.
Oui.
C'est toujours impressionnant ce geste.
Ah oui, ça fait toujours drôle. Quand on demande la date et qu'on regarde l'heure, moi les premiers temps ça me choquait. Puis...
Oui. Bon, tout va bien pour le niveau du sang.
Bien.
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois qu'on va commencer par le questionnaire fermé.
Allez-y, c'est vous le patron.
D'accord. Bon, première question, est-ce que chez vous il y a des dictionnaires? Ou un dictionnaire?
Ici, enfin, dans mon entreprise.
À la maison.
Oui, oui, bien sûr.
Je peux demander lequel?
Larousse.
Larousse? Nouveau petit ou énorme ou...
Non, 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 une bonne moyenne.
Bon, en combien de volumes?
Assez plein, mais enfin, un volume.
Ici, si. Et où est-ce que vous les gardez à la maison, dans quelle pièce?
Dans la bibliothèque.
Mmh. Et vous l'avez depuis quand?
Ça, depuis ça, toujours? Oui, enfin, bon, depuis une dizaine d'années, certainement, oui.
C'était un cadeau, vous l'avez acheté?
Non, j'ai dû l'acheter pour l'étude de mes enfants, certainement.
Et qui est-ce qui s'en sert le plus souvent?
Mes enfants.
Mm-hmm. Vous-même?
De temps en temps, oui, bien sûr.
Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que vous avez consulté?
Non, aucune idée. Alors là, franchement, non.
Enfin, vous cherchez quel genre de choses?
Ben, un mot, quelquefois un mot peu usuel, alors on cherche l'orthographe ou le sens exact pour avoir vraiment tous les sens d'un mot, ou quelque chose comme ça.
Et du côté des encyclopédies?
Non.
Non. Et, par exemple, des ouvrages de référence sur le français, sur l'art d'écrire, les difficultés du français, l'usage?
Non. Non. C'est un tort, d'ailleurs.
Comment ça?
Oui, c'est toujours utile, on devrait en posséder.
Est-ce que vous faites des mots croisés?
Rarement. Rarement. Quelquefois, quand je me trouve dans le train ou un dimanche après-midi où je ne sais vraiment plus quoi faire.
Est-ce que, d'une façon générale, vous pensez qu'il soit utile que les enfants apprennent le latin à l'école?
Je pense.
Mm-hmm. Il y a des raisons?
Oui, au point de vue pour le français, je crois que c'est une excellente formation.
Et qu'est-ce que vous pensez du franglais?
C'est bien, mais il ne faut pas l'abuser.
Ah, oui.
Oui, c'est très bien au fond. Si la réciproque existe en Angleterre, c'est parfait.
Depuis des siècles.
Bon, voilà. Je ne parle pas du tout anglais, hein. Je dois vous le signaler.
Il y a tellement d'éléments français en anglais qui sont importés de toutes pièces.
Oui.
Accent et tout.
Ah bon?
En général, avec l'accent un peu de travers.
Oui,
je veux dire l'accent de l'orthographe.
Il faut bien que vous apportiez quelque chose.
Est-ce que, d'après vous, il y a des différences dans la façon de parler selon le milieu social?
Oh, certainement. Mmh. Ça,
est-ce
certainement.
Que ces différences sont très grandes ou...
Oui. Mmh? Oui, je pense.
Ah bon? Et quel genre de différence surtout?
Bien, vous savez, justement, je crois qu'une personne qui a étudié le latin dans son enfance a un français beaucoup mieux construit, beaucoup plus châtié, si j'ose dire. Et c'est pas péjoratif hein, ce que je vous dis, mais je crois que beaucoup d'ouvriers emploient énormément d'argot, etc. Quoique, on l'emploie un peu dans toutes les classes, mais par snobisme.
Oui. Est-ce que vous trouvez que les gens parlent de mieux en mieux ou de plus en plus mal?
De plus en plus mal.
Ah bon? De quoi cela vient-il?
De l'argot.
Ah.
Et puis d'un laisser-aller général, j'ai l'impression. Enfin, c'est personnel, hein, mon impression.
Oui, mais ce qui nous intéresse, c'est votre opinion personnelle.
Oui, je pense.
Quand est-ce que vous avez écrit pour la dernière fois? Littéralement, écrit.
Écrit.
vite des signes lisibles sur
il y a une quinzaine de jours, peut-être, ah, oui.
Enfin, plus de n'importe quoi, pas forcément des lettres.
Ah bah alors là, j'écris tous les jours, alors. Parce que les autres lettres, je les dicte à ma secrétaire. Ah, oui. Donc.
Alors, pour votre travail, vous dictez, c'est...
Oui, très souvent, je fais un brouillon avant de dicter ma lettre. Justement pour essayer d'avoir un français correct.
Ah oui. Enfin, pour les choses que vous écrivez vous-même, enfin les choses écrites à la main, est-ce que vous trouvez qu'il est important d'avoir une belle écriture?
Oui. Mm-hmm. Oui, oui.
Droite.
Pour le plaisir de l'œil.
Oui. Et l'orthographe, est-ce que c'est important?
Oui. Mm-hmm. Hélas, et en français c'est très difficile.
Ah, quel genre de difficulté?
Ah, nous avons des complications, les mots qui s'écrivent. Bon, il y a quelques fois, on ne sait pas s'ils sont masculins ou féminins, il y a un tas de choses comme ça.
Je dois dire, mon rêve, ce serait d'abolir le genre grammatical. Étant donné que ça n'existe pas en anglais.
Ben oui, oui, vous êtes des petits.
C'est dur.
Favorisés. Hein. Ah oui, oui, ça ne m'étonne pas.
Est-ce que vous seriez favorable à une réforme de l'orthographe?
Certainement.
Oui.
Oh oui, je pense. Si on arrivait à simplifier, oui.
Et enfin, entre vous et votre femme, qui est-ce qui écrit habituellement aux amis communs?
Ah, c'est très compliqué, parce que ma femme n'est pas française.
Ah non.
Ma femme est italienne. Alors quand il s'agit d'écrire en Italie, automatiquement, évidemment, c'est elle qui écrit. Et en France, c'est moi.
Donc, en répartition des tâches selon la langue.
Oui, voilà. Elle parle le français, bien sûr, moi je parle italien, mais enfin, chacun écrit dans sa langue maternelle, c'est normal.
La facilité, en fait. Donc, ça, c'est vous qui vous occupez des papiers administratifs.
C'est ça. Mmh.
Et dans ce cas-là, là, moi qui ai une différence de langue maternelle, la question suivante ne s'applique pratiquement pas, parce qu'il s'agit de savoir, à votre avis, qui entre vous deux, manie le français avec le plus de facilité.
Là, le problème est résolu d'avance.
Pas de problème. Et vous-même, combien de lettres est-ce que vous écrivez en moyenne par mois pour votre travail d'un côté et sur le plan personnel de l'autre?
Oh, sur le plan personnel, j'écris très rarement. Pour mon travail, évidemment, j'envoie plusieurs lettres par jour. Mmh.
Et évidemment, les lettres de la correspondance et en rapport à votre travail, vous gardez. Mais est-ce que vous gardez les lettres qu'on vous envoie?
Non.
Les lettres personnelles?
Non. Non.
Et enfin, vous m'avez déjà dit que parfois vous faites le brouillon avant de dicter.
Oui,
par le secrétaire.
J'aime bien.
Est-ce que quand vous écrivez des lettres personnelles, vous faites un brouillon?
Ah non.
Enfin, est-ce que vous faites attention à la langue?
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous relisez?
Bien sûr.
Toujours.
Enfin, je pense, oui. Oui, oui.
Et vous écrivez avec quoi?
Très souvent avec cet engin-là.
Chouette. Premier style de feutre qu'on a proposé.
Ça, c'est formidable.
Interview. Oui. Et c'est...
Il y a toutes les marques.
Oui,
celui-là est fabriqué au Japon. Enfin, il y a des produits allemands qui sont très bien. Mais ça, c'est une déformation professionnelle, parce qu'on dessine très très bien avec ça, et j'ai pris cette habitude-là.
C'est répandu par mon professorat aussi.
Ah bon? Oh, c'est très pratique, ça. Enfin, j'ai pas d'action dans la maison, mais c'est très très bien.
Ah, okay. Mais c'est tout. Et vous utilisez quel genre de papier?
Pour mes brouillons ou pour...
Enfin, s'il y a une différence, qu'est-ce que vous utilisez pour les brouillons?
Tout ce qui me tombe sous la main.
Oui. Et pour la lettre elle-même?
Papier à lettre correcte, en lettre blanc en général.
Et s'il vous arrive d'avoir à écrire un mot d'excuse à l'école... De vos enfants, pardon. Est-ce que... Qu'est-ce que vous envoyez? Vous envoyez une lettre normale ou une carte de visite ou quoi?
Oui, une lettre normale. Très courte, évidemment.
Oui, évidemment. Et la lettre officielle?
Non, non, non.
Pas de problème. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent dans la façon de parler de votre femme?
Non, ça m'amuse beaucoup.
Ah bon?
Parce qu'elle a un accent. C'est le gros sujet de plaisanterie dans la famille.
Ah bon. Enfin, est-ce qu'elle peut se venger de son côté? Est-ce qu'il y a des choses chez
Ah bien sûr, quand... Oh, certainement seulement. Vous dire lesquelles, je n'en sais rien.
Est-ce que vous vous reprenez?
Oui, gentiment, bien sûr.
Évidemment. Et qui reprend l'autre le plus souvent? Est-ce que c'est vous qui reprenez votre femme ou elle qui vous reprend vous? Ou est-ce que ça dépend du jeu de ping-pong?
Vous savez, on ne peut pas dire que ce soit 50% chacun, je n'en sais rien.
Point d'interrogation.
Oui, oui, franchement.
Et dans la façon de parler de vos enfants, est-ce qu'il y a des choses...
Ah oui, oui, je les reprends très souvent pour éviter justement qu'ils abîment trop le français avec l'argot.
Ah, c'est surtout pour l'argot.
Oh oui. Puis les écoliers, les étudiants emploient des expressions qui ne sont pas vraiment du français, quoi. Alors, il faut essayer de réagir de temps en temps. Quelquefois, c'est très drôle, mais enfin, fais pas la bise.
Est-ce qu'il y a des mots qui sont interdits?
Oui, les mots, comment dirais-je, mal polis, mal honnêtes, oui.
À mettre un père.
Oui. Oui, je tiens à ce qu'on soit correct.
Est-ce que vous prenez des sanctions? Tu rêves pas.
Oui, enfin.
Il faut que je pose la question.
Je réagis.
Bon. Est-ce que vos parents faisaient attention à votre façon?
Ah oui.
C'était surtout votre père ou votre mère?
Les deux.
Les deux. Et pour quel genre de choses?
À peu près pour la même raison, seulement c'était moins développé dans mon temps. Enfin, c'est une impression à moi, j'ai l'impression que c'était moins développé que maintenant.
Ah bon?
Se laisser aller.
Et est-ce qu'on prenait des sanctions?
Oui.
Quel genre?
Je sais pas, selon l'âge, quand j'étais très jeune, ça vous privait de dessert. évidemment, quand on est plus âgé, c'est surtout des réprimandes, enfin... Il y avait une réaction très nette.
Bien, bien, bien. Alors maintenant, ah oui, italienne. Vous avez combien d'enfants?
Quatre.
Quatre enfants. Et votre profession, ça s'appelle quoi?
Ah, c'est compliqué. Je fais des vitraux.
Oui.
Je suis peintre verrier.
C'est moi que je cherchais.
Et en même temps, j'ai une entreprise de peinture décoration. Peinture en bâtiment décoration.
Et vous êtes à Orléans depuis quand?
Depuis ma naissance.
Oui.
41 ans pour nous la cacher.
Alors pour le contrôle, enfin j'arrête la machine. Des questions très rapides. Est-ce que vous avez un poste radio?
Bien sûr.
Et est-ce que vous l'écoutez beaucoup?
Non.
Non? Enfin, la chaîne préférée?
Bon, je ne sais pas, c'est toujours la même chaîne, c'est celle où il y a le plus de musique. Mais elle est toujours réglée, je tourne le bouton et...
Ah bon. Et la télévision?
Oui.
Vous regardez ou écoutez, je ne sais jamais quel verbe employer.
Les deux. pas souvent. Moi. J'essaie de trier un peu les programmes qui ne sont pas toujours intéressants, hélas.
Enfin, quel genre d'émission est-ce que vous choisissez?
Quand il y a un bon film, mais... quelques variétés, mais il ne faut pas en abuser.
Et le cinéma, vous voyez?
C'est très bizarre. Je peux rester un an sans aller au cinéma, puis nous irons 3 semaines de suite.
Bon. quel genre de film?
Je suis l'homme très très pacifique, mais je vois des films de guerre.
Pour maintenir l'équilibre.
Sans doute.
Est-ce que, à votre avis, la radio et la télévision, le cinéma sont des instruments de culture?
Oui, je pense. Si c'est bien employé, oui.
Et la photo, est-ce que vous faites la photo?
Non, pas du tout.
Or, en ce qui concerne la peinture, évidemment, c'est une question un peu...
Ça, c'est mon métier, poser, ça, oui.
Étant donné que
oui.
C'est votre métier, c'est oui. Un métier qui a un rapport. Mais en dehors de votre travail, quelles sont vos préférences du côté de la peinture? Soit des noms propres, ou des écoles, des mouvements?
Oh, c'est très difficile. J'aime beaucoup les toiles anciennes, et j'aime beaucoup aussi... certains peintres modernes, ça y a aucun doute. Et... J'ai beaucoup d'amis d'ailleurs qui sont peintres.
Oui.
Je sais pas, j'ai pas une préférence.
Ah, oui. Là, une question qui n'a pas fait pour un professionnel. Excusez-moi. Ah
oui.
Je pense que c'est une question qui a un peu de sens.
Non, j'aime bien.
C'est quelqu'un qui regarde un amateur, mais.
Oui, non, j'aime bien la peinture abstraite, par exemple, des choses comme ça. Enfin, les noms ne me reviennent pas spécialement, mais enfin, la peinture actuelle, j'aime beaucoup. Mais...
Et est-ce que vous allez dans les musées ou
bien sûr.
Les privés plutôt?
Bien sûr, oui, chaque fois que j'ai l'occasion.
Vous avez dit que vous ouvrez la radio.
Oui.
Un poste indéterminé.
Oui.
Où il y a de la musique.
Oui.
Quel genre de musique, surtout?
La grande musique, c'est un grand mot, mais enfin, mettons de la bonne musique.
Oui. Par exemple?
Je sais pas, ça peut être du Bach, du Mozart, ou... Ce qui m'empêche pas, ce qui m'empêche pas du tout d'apprécier certaines chansons.
Est-ce que vous pratiquez un instrument?
Pas du tout.
Vous possédez des disques?
Oui, bien sûr. Enfin, c'est surtout mes enfants.
Ah bon? Et est-ce que vous allez au concert?
Non.
Au théâtre?
Oui.
Ici
à
ou
Paris.
À Paris?
À Paris.
Toujours la même suite dans les questions. Quel genre de pièce?
Je sais pas, non, ben, ça, je, en général, je regarde un peu sur les journaux, les critiques. Oui, les pièces horribles, les pièces noires, les trucs.
Qu'est-ce que c'est pour vous une pièce horrible?
Oh, où il y a énormément de morts, énormément de des situations dramatiques, des choses comme ça. Moi, je vais au théâtre, c'est pour passer une soirée agréable, et essayer de voir quelque chose de valable, bien sûr, mais enfin... C'est pas pour revenir avec des idées noires, quoi.
Ah bon? Alors, le cimetière de peinture, ce serait peut-être pas...
Voilà.
Le spectacle.
Voilà.
Bon. Vous savez à peu près combien de fois dans l'année? Parce que c'est comme pour le cinéma.
Oui, c'est un peu ça, oui, comme le cinéma. Oui.
Et du côté de la presse? Est-ce que vous prenez habituellement un journal?
Oui, je prends un journal local.
C'est lequel?
La République du Centre.
Et d'autres journaux périodiques, revues?
Quand je suis en voyage, oui, des choses comme ça.
Et sans doute une certaine presse professionnelle aussi, enfin...
Oui, enfin ça, évidemment. Oui, oui. Alors des revues d'art, des choses comme ça aussi, oui.
Est-ce que tout cela vous laisse le temps de lire?
Tous les soirs, oui.
Oui.
Je lis beaucoup.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des polarisations?
Oui, bah, c'est toujours ma manie. Je lis énormément de livres sur la dernière guerre. Mais en dehors, justement, de ces revues d'art ou des choses comme ça. Mais...
Et une question à laquelle vous ne répondez pas beaucoup, à laquelle vous ne répondez pas, est-ce qu'il y a un parti politique qui représente vos opinions? Est-ce que je peux vous demander de quel côté vous vous placez politiquement dans le spectre?
Je ne fais pas d'études politiques, mais enfin je penche plutôt vers le centre. Le centre-gauche, si vous voulez. Si vous voulez des nuances.
J'adore les nuances, surtout lorsqu'elles ne s'en contradictent pas. Bon, voilà pour les questions fermées.
Oui.
Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses, aux choses plus intéressantes.
Oui.
Vous m'avez dit tout à l'heure que vous venez à Orléans.
Oui.
Et que vous avez cette entreprise d'un côté de la peinture décoration, de l'autre côté de
vitraux.
De vitraux. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce métier?
Mais voyez-vous,
profession, je ne sais plus.
Mon père avant moi faisait ce métier, n'est-ce pas?
Oui.
Je suis donc né. Je suis né là-dedans. N'est-ce pas? Et ça, les vitraux, par exemple, m'ont toujours, toujours, toujours passionné.
Oui.
C'est vraiment, vraiment, je suis né là-dedans.
Oui.
Et puis, alors, il y a quelques années, j'ai voulu étendre un peu mon activité, et c'est à ce moment-là que j'ai créé une entreprise de peinture-décoration.
Oui.
Mais, si vous voulez, il y a quand même un certain rapport, parce que je ne fais pas 40 logements tous pareils. Je travaille que pour des particuliers, on arrange un salon. Enfin, c'est vraiment de la décoration, donc. Si vous voulez, ça reste un petit peu dans mon premier élément. Et puis, très souvent, ça se complète. Si je fais un appartement, il est possible que je fasse un vitrail en même temps. Enfin, voilà, c'est pour ça.
Oui. Alors, c'est l'agencement total.
Oui. Puis alors, j'aime beaucoup les meubles anciens, les choses comme
oui.
ça. Alors, très souvent aussi, je fais acheter par mes clients certains meubles. Pour compléter la décoration.
Ah oui. Dans ce cas-là, évidemment, il y a énormément de choix personnels et de personnalités qui entrent
oui.
là-dedans.
Bah oui, si vous voulez, mais enfin, il faut tenir compte aussi du goût du client. Alors, il faut les orienter, il faut les pousser, il faut même les violer de temps en temps. Enfin,
ah bon.
Bon, on y arrive.
Quoi. Parce que j'allais vous demander quelle était la personnalité dominante à la fin du processus. Est-ce que c'était celle du client ou la vôtre?
J'ai assez de chance. Mettez à 90%, c'est la mienne, mais il y a toujours les fameux 10% où là on se trouve un peu désarmé. Quoi.
Ah bon?
Et où ça arrive. Ça arrive.
Votre métier, est-ce qu'il y a des études précises pour devenir maître verrier?
Non.
C'est
non, non, il faut, bon, l'apprentissage pour la partie technique, oui,
oui.
Mais la partie artistique, bon, bah, vous savez, c'est l'école classique, hein, les beaux-arts, où moi j'ai fait un peu les beaux-arts, j'ai fait le centre d'art sacré.
Oui, j'aurais dû vous demander, vous avez fait les beaux-arts?
Oui, oui.
À Paris?
Non, à Orléans,
Orléans,
au départ, et après j'ai fait le centre d'art sacré à Paris.
Ah, le centre d'art
sacré, oui, Place Furstenberg, c'est une...
Je crois,
oui. Vous connaissez?
J'ai habité à côté pendant 2 ans et
ah bon?
Je n'ai jamais remarqué.
Si, si, il y avait la chambre d'art sacré qui avait été fondée par Maurice Denis.
Ah oui.
C'est à côté de l'atelier du peintre.
Dame.
Et alors là, si vous voulez, on faisait exactement comme au Beaux-Arts, mais enfin plus spécialement orienté vers l'art sacré.
Ah oui.
C'est aussi bien de la tapisserie, de la mosaïque, du vitrail, de la peinture, enfin. Mais toujours avec l'arrière-plan art sacré.
Oui. Enfin, tout ce qui a rapport à l'art sacré, non seulement.
Oui,
les...
oui. Mais enfin, toutes les formes d'expression artistique, évidemment, on était bien obligé de.
Alors, si c'était fondé par Maurice Denis, ça doit être là depuis.
Ah oui, oui, facilement, mais je crois maintenant que c'est fermé, parce que à un certain moment, il n'y avait plus d'éléments masculins, il n'y avait plus que des petites jeunes filles de bonne famille qui venaient faire. Bon, puis c'est tombé vraiment.
C'est triste, comment est-ce que vous expliquez ça?
Bah, vous savez, je crois que ce centre avait énormément de mal à vivre au point de vue financier. n'est-ce pas? Alors on était obligé de justement de prendre ces petites filles qui sont bien gentilles, mais enfin, on ne sait pas trop quoi en faire. Alors elle est douée, on veut lui faire faire du dessin, etc. Et puis un beau jour, bien, cet élément-là submergeait l'autre, et puis il n'en sortait plus rien de valable, et je crois qu'ils ont cessé pour ça. Je pense.
Oui. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres centres maintenant, s'il y avait quelqu'un qui voulait s'y mettre?
Oui, vous avez l'école des métiers d'art à Paris, oui, qui a une branche vitrail.
Ah bon?
Enfin, qui, à mon sens, est plus orienté sur le technique avec une petite pointe simili-artistique. Mais enfin, vraiment une école spécialisée pour le vitrail, non, je pense pas, à part cette histoire de métier d'art.
Bon, je demandais si côté art religieux, il y aurait peut-être quelque chose.
Je pense pas.
Il y a cette abbaye, je crois.
Oui, ben, tous les abbayes tripotent plus ou moins.
Enfin, il y en a une en particulier. Et j'ai complètement oublié le nom de cette abbaye. Enfin, tant pis.
Au point de vue vitrail ou au point de vue arrangement?
Au point de vue tout.
Tiens, parce qu'il y a plusieurs abbayes qui font un peu de vitraux, comme oui, ça. Ils sont d'ailleurs très gênants au point de vue commercial. Ben oui, justement, alors ils ne payent pas les charges sociales que nous payons nous, ils n'ont pas les mêmes charges, et ils arrivent à avoir des choses que nous ne pouvons pas tenir, ça c'est évident. En dehors de toute qualité artistique, je la mets pas en cause, ça n'a rien à voir, mais au point de vue commercial pur, nous on ne peut pas résister. Ah, presque. Enfin, je suis pas dit égal. Mais enfin, il faut avouer que...
Et recommande du côté vitrail, est-ce que c'est pour la plupart ecclésiastique ou...
Non, enfin, il y a 10 ans encore, oui, c'était uniquement pour les églises. Et maintenant, il y a un renouveau dans le vitrail. Les particuliers font exécuter des vitraux pour leur maison. J'ai même fait des vitraux pour une usine, tout un hall d'usine,
dans l'Alle
de Verre, ou des choses comme ça.
Et c'est une chose qui m'a frappé, le vitrail comme pas mal de moyens d'expression.
Oui.
C'est un moyen très ancien.
Oui.
Qui à un certain moment est tout de même tombé dans une certaine décadence.
Ah oh oui,
certaine. Et puis, oui, comme dans la tapisserie par exemple,
oui,
il y a une renaissance spectaculaire.
Ah oui, oui, très certainement.
Pas récemment.
Vraiment, la renaissance du vitrail a commencé il y a 30 ans, quoi. Mmh. Vraiment, mais...
Ah, si récemment que ça.
Oh oui, 50 ans, mmh, si vous voulez, au maximum. Mmh. Bon, les grandes époques, vous savez, c'est 12e, 13e, bon, puis après 14e, 15e, mmh, c'était encore valable, mais ça baissait, puis il y a eu un sursaut au 16e, mmh, puis alors jusqu'au 18e, ça a encore baissé, 19e, c'était la chose atroce. Hein, et puis 1900, il y a eu un petit sursaut parce que c'est une époque. Et puis jusqu'avant la guerre, vraiment c'était lamentable. Mais là maintenant, je crois que. Puis alors, on travaille beaucoup aussi avec des peintres.
Oui.
Par exemple, moi j'ai beaucoup de camarades qui étaient au centre d'art sacré avec moi et qui sont peintres uniquement et qui ont quelquefois des commandes de vitraux. Alors, ils viennent exécuter chez moi au point de vue artistique. Enfin, ils gardent la partie artistique et ils viennent exécuter au point de vue technique, je veux dire.
Oui.
N'est-ce pas? Mais par contre, moi, je ne peux pas tout faire, donc certaines commandes, je garde la partie technique et je leur repasse la partie artistique.
Ah oui.
Oui. Alors, tout ça fait un échange. Et puis, je crois que les peintres, c'est excellent. Parce que ça nous aide à nous renouveler, à voir un tas de choses. Eux cherchent plus facilement que nous parce qu'ils ne sont pas tenus par un atelier. Je crois que c'est bon.
Oui, parce que là, évidemment, vous avez le côté technique, presque le côté industriel de la chose.
Industriel, c'est pas possible. Ou alors, c'est plus du vitrail. Mais enfin,
oui,
j'ai le côté commercial, oui.
Les matériaux qui
sont. Oui, c'est ça.
Peut-être
oui, oui. Tout le côté technique, oui. Oui. Et puis alors donc, ça suppose une main-d'œuvre, si vous voulez, une espèce d'esclavage, c'est un grand mot, mais enfin, une espèce de servitude, alors que les peintres, qui eux sont uniquement peintres, sont dégagés de cette chose-là. Ils, peuvent, ils peuvent travailler avec un esprit plus, plus dégagé. Hein.
Mais il y a tout de même certaines limites techniques. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les peintres en général sont conscients de...
Remarquez,
non seulement des limites, des limitations, mais aussi des possibilités de ressources.
Oui, oui, pas tous les peintres d'ailleurs, parce que quand on est obligé de travailler en collaboration, ceux qui ont déjà, si vous voulez, travaillé avec nous, Verrier, bon, savent que telle chose, au point de vue technique, c'est possible, ça ne l'est pas. Bon, automatiquement, ils en tiennent compte dans leur composition. Mais le peintre, extrêmement valable en tant que peintre, mais qui arrive pour la première fois au vitrail, on est obligé de lui donner des tuyaux, des explications, en lui disant, bah, vous voyez, ou tu vois, ça c'est bon, ça c'est pas possible, parce que ceci, parce que cela.
Oui.
Si le type a vraiment quelque chose dans le ventre, comme on peut dire, bon, il a vite compris.
Et ce genre d'initiation, est-ce que d'habitude vous le faites avant coup ou après, à partir d'un carton?
Sur la maquette.
Ah bon?
Sur la maquette, oui. Et vous, parce que on peut lui dire très facilement, bon, mais cette coupe, ce verre que tu as mis comme ça, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas la couper de cette façon, etc. Ou alors, si tu as mis tel bleu à côté de tel rouge, à 10 mètres de recul, ça va faire un violet. Donc, il faut éviter cette... Mais ça, ça se fait presque automatiquement en parlant, en discutant sur la maquette.
Ah bon ?
Et vous ? Surtout qu'il n'y a pas des impossibilités techniques tellement, tellement énormes. C'est pas si compliqué que ça, quoi.
Est-ce que vous trouvez des explications pour cette renaissance, tout de même?
Oui, je crois.
Oui.
Enfin, j'en ai une. Maintenant, je ne sais pas si c'est la bonne. Je crois que nos braves concitoyens sont tellement, tellement habitués à voir des architectures sans aucune... Enfin, il y en a de très bonnes, mais il y en a d'autres qui n'ont vraiment aucun caractère, qui sont vides, qui sont sans vie.
Oui.
Et ils réagissent en voulant un peu de couleur pour animer ces grandes surfaces toutes blanches, ou toutes grises, ou toutes uniformes. Et ça devient une espèce de réaction, un besoin de voir quelque chose qui vibre un peu. Moi, je crois que c'est ça. Et puis qui colore un peu, qui... Et puis aussi, je crois que tous les appartements, toutes les résidences, tout ça, c'est tout pareil. Alors, ils essayent de personnaliser quelque chose. Ou alors, ils se commandent un petit vitrail parce que ça, ils sont sûrs de ne pas le retrouver dans l'appartement de son voisin, de leur voisin, qui ont le même appartement, mais qui n'auront pas ce petit truc-là. Alors, ils auront l'impression d'avoir été original.
Ah bon ?
Et oui, c'est le besoin de sortir un peu de l'uniformité, moi, je pense. Enfin, c'est un point de vue personnel. Oui. Remarquez, c'est valable aussi pour la... Même pour les décorations intérieures, je vois au point de vue peinture, bien, il y a quand même, depuis une dizaine d'années, on sent que les gens cherchent à se créer un univers à eux qui ne soit pas tout à fait pareil que celui du voisin.
Oui, oui.
On a besoin de sortir de l'uniformité, ça, c'est ça, quoi.
C'est primordial.
Sans ça, on va en crever. Ça, je ne sais pas comment c'est en Angleterre, mais en France, ça devient terrible. Vous allez dans n'importe quelle ville. Avant, chaque ville avait son caractère, ça, c'était agréable. On allait à Toulouse, bon, on savait que c'était une ville comme ça. Maintenant, on retrouve les mêmes bâtiments, les mêmes constructions, les mêmes lignes, les mêmes matériaux, et puis... Alors, c'est plus la peine d'aller à Marseille ou à Tombouctou, ça sera tout pareil. Hein. Et je crois que les gens réagissent comme ça, pour se créer un petit luxe à eux, quoi.
Oui.
Et vous ?
Enfin, quelle est l'attitude envers le vitrail ? Étant donné que, pour un tableau, c'est très bien, c'est exécuté entièrement par la personne qui conçoit.
Oui.
Alors que le vitrail...
Ou c'est exécuté entièrement, ça dépend. Moi j'en fais, j'en crée, j'en les exécute complètement, mais Vous savez, ça, le client ignore absolument comment se fait un vitrail. Ça, alors là, c'est le... Même des architectes qui sont censés nous diriger sur certains travaux, le vitrail, c'est le mystère absolu. Alors là, il se figure qu'on travaille encore comme au XIIe siècle. On n'en est pas loin, remarquez. Mais enfin, ils savent que c'est du verre, du plomb, mais en dehors de ça, vraiment, ils ignorent. Hein.
Ah, vous utilisez toujours les techniques traditionnelles?
Bien sûr, bien sûr. Le verre coloré dans la masse, soufflé à la bouche, les baguettes de plomb. Enfin, il y a d'autres techniques, puisqu'on fait aussi des vitraux dans le ciment armé, on fait des vitraux dans des baguettes de cuivre. On fait. Enfin, on a toujours la technique du Moyen-Âge, quoi.
Ah, je me demandais s'il y avait des expériences ou s'il y avait... de possibles innovations dans la technologie
oui,
de la chose.
Oui, oui, on cherche beaucoup sur les polyesters actuellement, les liants en polyester, même le remplacer le verre par le polyester.
Ah oui.
Oui, on fait des verres collés, ce qu'on ne faisait pas avant, qui ne sont pas du vitrail, qui ne sont pas du verre coloré. Mais enfin, le vitrail traditionnel existe toujours et je suis persuadé qu'on le fera encore dans 400 ou 500 ans, enfin, je l'espère. Je l'espère.
Est-ce que vous pourriez me décrire la réalisation?
La vitraille. Ah oui, oui, c'est... Enfin, je vais schématiser, hein.
D'accord.
Bon, alors, évidemment, on fait... D'abord, on étudie un projet pour chaque problème posé, parce que vous n'avez jamais exactement le même problème. Ça peut varier d'éclairage, de forme, de fenêtres, de style, si c'est un édifice, vous comprenez, ou ça peut être un salon chez un particulier, comme ça peut être une cage d'escalier, bon, c'est pas la même chose, ou une église du 15e et une autre du 13e, c'est pas possible de faire la même chose. Puis si on veut être honnête, un bon peintre ne fera jamais deux fois le même tableau, donc nous, on est obligé aussi, même pour les choses les plus simples, de faire un projet, une maquette au 10e, en couleur. C'est quelque chose comme ça. Bon, ça, ce sont des vieilles maquettes, mais enfin, voilà ce que c'est qu'une maquette.
Ah oui, oui.
N'est-ce pas? Alors, vous avez donc les taches de couleur, les lignes noires sont les plombs futurs, n'est-ce pas?
Oui.
Et c'est ce que nous présentons au client, en disant, bon, ben, moi, votre problème, je le vois comme ça.
Enfin, qu'en
pensez-vous?
Par exemple,
c'est au 10e.
Elle est haute et elle est assez mince. Et effectivement, il y a des lignes qui correspondent au plan. Il y a également des lignes horizontales.
Ces lignes horizontales, ça sont les panneaux. Les vitraux sont divisés par panneaux séparés, n'est-ce pas? Et ça sont des armatures de fer.
Ah, oui.
N'est-ce pas? Parce que le verre lié par du plomb n'est pas assez rigide pour supporter une surface aussi importante que ça. Donc, on est obligé d'avoir une armature de fer. Et alors, ça, on présente ça au client en disant, ben voilà ce que je pense.
Oui.
Bon, alors, il est d'accord ou il n'est pas, ou il me dit, bon, ben là, vous voyez, il y a trop de vert, je voudrais des points rouges, Alors là, on discute, on n'est pas toujours d'accord, mais enfin, bon. Puis finalement, si nous sommes d'accord, on peut modifier légèrement la maquette, et après, on fait ce que l'on appelle un carton, c'est-à-dire ce dessin-là, agrandi, mais à la grandeur de la fenêtre.
Ah oui. Oui.
N'est-ce pas? Mais sans les couleurs, où nous avons uniquement les lignes de plomb.
Oui.
N'est-ce pas? Ce carton, nous le calquons et nous le reportons sur un papier fort, ce qu'on appelle un papier calibre, qui est presque un carton, un autre carton.
Oui.
Et c'est ce nouveau carton qui est découpé et qui va nous donner en papier la forme de chaque pièce.
Ah oui.
N'est-ce pas? Bon. Alors, nous reprenons la maquette et, à l'aide de la maquette, nous faisons le choix de verre. Avec tous les échantillons, en disant, bon, ben, tel endroit, j'ai un jaune, je cherche dans mes jaunes, c'est celui-ci. Alors, à ce moment-là, on prend le calibre en papier et on découpe le jaune suivant le format du calibre.
Ah oui.
Voyez-vous? Bon. Alors, si dans ce cas, comme dans ce cas-ci, c'est un personnage, donc... Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire uniquement avec du verre et du plomb. Par exemple, ses cheveux, le nez, la bouche, etc. Alors là, on intervient avec une poudre spéciale qu'on appelle de la grisaille, qui est à base d'oxyde de fer. De la grisaille qui contient de l'oxyde de fer.
Ah oui.
N'est-ce pas? Alors, quand toutes les pièces sont coupées, on le met en plan, c'est-à-dire qu'on prend un tout petit plan et on rassemble toutes les pièces,
oui.
N'est-ce pas? Bon, autrement dit, vous avez votre fragment de vitrail coloré, mais sans grisaille. Et à ce moment-là, vous voyez si le vert à côté du jaune réagit bien, si on ne s'est pas trompé à la coloration. Alors, on peut changer une pièce ou l'autre. Et après, on fait la grisaille, c'est-à-dire la peinture. On fait les détails, les ombres, les mains, le visage, etc. Bon, puis on démonte tout. On le cuit. Le vert est coloré dans la masse, mais cette peinture noire que vous avez rajoutée, il faut l'incorporer au vert. Alors, on le met dans un four, le vert se ramollit, et cette peinture à base d'oxyde de fer pénètre dans le vert,
oui.
N'est-ce pas? Vous laissez refroidir, et vous remettez en plan une seconde fois. Voyez-vous?
Oui.
Et après, on fait passer du mastic liquide sous les plombs pour l'étanchéité, et puis après, on va poser, etc.
Ah bon?
Enfin, j'ai simplifié. Hein.
Oui, d'accord, mais...
Alors, si vous voulez, maquette, carton grandeur nature, découpage des calibres des pièces, choix de verre, mise en plomb provisoire, peinture s'il y a lieu, démontage, cuisson, réassemblage, remise en plomb définitive, masticage pour l'étanchéité et pose.
Ah, je vois, oui. Et il faut compter combien de temps pour cette suite d'opérations?
Enfin, si c'est très variable. C'est très variable parce que ça dépend de la grandeur des pièces. Ça peut être un personnage avec un vitrail grand comme ça et haut comme ça, mais avec des pièces grosses comme mon ongle.
Oui.
N'est-ce pas? Vous mettrez presque, à ce moment-là, vous mettrez 15 jours à l'exécuter et... Et vous mettrez 3 semaines pour exécuter un grand, parce que finalement, la fragmentation n'est pas du tout la même. Et puis alors, certains vitraux, eux, ne sont pas peints, ce sont juste des verres avec un réseau de plomb qui, lui, fait un graphisme.
Oui.
Alors, c'est encore différent si vous supprimez la cuisson, la première mise en plomb. Et oui, c'est très difficile. Bon, enfin, mettez un vitrail comme celui-ci, il faut compter... Avec toutes les opérations qu'on ne peut pas faire toujours à la suite les unes des autres, il faut compter un mois et demi à peu près.
Ah oui.
Oui, même 2 mois.
Mm-hmm. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des problèmes avec les clients?
Des problèmes de règlement, oui.
Avant.
Oui. Non, puis je travaille beaucoup pour les monuments historiques, je travaille beaucoup pour l'État, alors c'est l'administration, on est payé. Quand ces messieurs ont de l'argent, quand le fonctionnaire a fini d'avoir les dossiers sous le coude, enfin oui, sans ça, non, pas spécialement.
Et enfin tout de même, il y a le côté financier de l'affaire.
Ben
ça
oui.
Représente énormément de travail.
Et vous avez à peu près 80% de main-d'œuvre sur un travail de vitraux. Et vous, alors, c'est parfois extrêmement pénible parce que quand nous travaillons pour l'État, évidemment, nous avons des marchés de plusieurs millions d'anciens francs, bien sûr.
Oui.
Mais. Qui vous sont réglés, le travail fini peut-être 6 mois, un an après.
Ah bon.
C'est pas, alors vous êtes obligé d'avancer le prix du verre, le prix de la main-d'œuvre,
oui.
tout. Oui.
Il y a un délai pendant lequel il faut tenir le coup.
Ben, il faut tenir le coup, oui. Alors évidemment, quand on a une maison qui est tout de même assez vieille, moi j'ai la chance que mon père a fait ce travail avant moi, etc. Alors il s'est établi un certain roulement. Bon, alors évidemment, on est réglé maintenant de travaux faits il y a un an. Mais c'est quand même très dur. C'est quand même très dur. Et je vous avoue que si j'ai monté aussi mon entreprise de décoration, là, c'est pour m'aider à continuer à faire ce métier vitraux qui est mon vrai métier. Ah, parce que la clientèle particulière, là aussi on a des difficultés, par exemple en décoration, mais quand même au point de vue règlement, c'est tout de même avec des délais moins importants pour les vitraux, oui.
Oui.
Enfin, on travaille aussi pour des particuliers qui vous payent tout de suite, ou même des prêtres de paroisse qui arrivent à vous régler rapidement. Mais enfin, c'est quand même, comme ça va toujours tout de suite à des. Ça monte à des sommes assez importantes, quelquefois il y a des difficultés.
Ah oui. Enfin, du moment qu'il s'agit d'une commande pour une église, est-ce que c'est fait en direct avec le prêtre ou avec. Enfin, quand il s'agit d'un donateur privé, ça doit être.
Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. Enfin, si, il y a quand même des problèmes, parce que l'église peut être classée monument historique. Alors là, il faut passer, faire passer les maquettes devant les commissions. Commission diocésaine d'art sacré, commission des monuments historiques à Paris, sous-commission, enfin, ça passe devant un tas de gens. Mm-hmm.
Est-ce que de ce côté-là, du moment qu'il faut passer par les commissions, est-ce que. Évidemment, ça implique un retard, mais est-ce que ça pose d'autres problèmes? Est-ce qu'il y a des problèmes stylistiques là-dedans?
Oui, on peut. Jusqu'à maintenant, j'ai de la chance, mais la commission peut refuser le projet purement et simplement, pour des raisons extrêmement valables d'ailleurs, ou non valables, je n'en sais rien. Mais enfin, vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Le style d'un peintre ou d'un verrier peut plaire à 50% des gens, et puis les autres le trouvent épouvantable. Ça.
Il est entendu que c'est une question de réaction personnelle.
Oui, mais enfin, comme c'est en commission, alors il y a tout de même, il y a des avis pour, il y a des avis contre. Ça peut arriver, oui. On peut vous demander de modifier un projet, ça m'est arrivé, dans un sens ou dans un autre. Enfin, ça, c'est à discuter aussi avec les architectes. Ou alors, quand on travaille pour les municipalités, dans des édifices non classés, alors là, en général, c'est avec le prêtre. Quoi.
Ah bon.
Et puis la commission de la chaisaine d'art sacré, quand même.
La commission, c'est quoi exactement?
Ce sont des vénérables ecclésiastiques qui n'ont pas toujours une formation artistique très développée, mais qu'on a nommé membres de la commission d'art sacré. Alors, ils jugent.
Ah bon.
Voilà.
Vous n'êtes pas là pour.
Ah si, on peut présenter son projet personnellement, bien sûr. Oui, on peut défendre. Pas toujours, mais enfin.
Vous avez quand même la possibilité de les convaincre.
Oui, Dieu merci. Oui.
Ah bon.
Oui, on peut dire, moi, je l'ai vu de telle façon, pour telle raison, voilà. Si.
Enfin, la maison, vous l'avez héritée de votre père.
C'est ça, oui.
Il me semble que. Du côté des Vitrous, il y a une tendance à des dynasties.
C'est un métier tellement inhabituel, si vous voulez, que, à moins d'avoir une vocation, comme certains jeunes tout d'un coup découvrent la vocation de verrier, c'est arrivé, j'ai un de mes excellents amis qui est verrier aussi et qui a toujours rêvé de faire du vitrail depuis sa plus tendre enfance. Il s'est débrouillé, il a appris à droite et à gauche et il crée des vitraux qui sont fort beaux d'ailleurs. Bon, mais ça c'est un cas spécial, mais tant ça dans les vieux ateliers, qu'est-ce que vous voulez, quand on est dans une ambiance surtout une ambiance comme celle-ci, il est difficile de changer de métier. Enfin, moi, c'est ce qui s'est produit pour moi, tout le monde.
Alors, c'est à cause d'avoir grandi.
Peut-être, oui.
Par tout cela.
Peut-être, oui.
Au fait, est-ce que c'est un métier. C'est inhabituel, d'accord, mais. Enfin, il y aurait combien de maisons?
En France, nous sommes une soixantaine.
Oui.
Ou peut-être un peu plus, mettez 80 si vous voulez. Mais enfin, d'ateliers comportant plus de 3 ouvriers, nous sommes guère en France qu'une dizaine, quoi.
Ah oui.
10, 12 par an, oui.
Ici, vous en avez combien d'ouvriers?
J'en ai 7.
Ou d'employés en général?
Ça me fait 15 ouvriers, oui. C'est 7 vitraux, 8 pour la peinture.
Ah bon?
Oui.
Oui, parce qu'évidemment, ça fait.
Et en plus, les employés de bureau, enfin, comme ça.
Oui. Oui. Côté réalisation, une quinzaine pour les deux branches.
Pour les deux branches, c'est ça, oui. Oui.
Est-ce que vous opérez surtout à Orléans
dans la... Oh non, toute la France.
Ah bon?
Ah oui. Ah oui, surtout. Ah non, je ne parle pas au point de vue décoration, mais au point de vue vitraux, oui.
Oui.
Oui, là, il nous est arrivé de faire des vitraux pour une église à Rodez, voyez-vous,
ah oui.
Et en même temps une à Sedan.
Ah.
Ça vous donne la dispersion. Voyez-vous, on a travaillé pour le temple protestant de Monaco, on est en train de faire des vitraux pour Caen.
Ah oui.
L'église de Caen.
Oui.
On a travaillé beaucoup en Normandie, écoutez, des plages de débarquement, ça, Vierville, Colville, enfin tout. Les... je vais faire des vitraux prochainement à la Madeleine, Saint-Maximin, la Sainte-Baume, dans le Var.
Ah oui.
Et vous? Là, je suis en train de restaurer des vitraux de la cathédrale d'Orléans. Alors. Mais là, c'est une coïncidence. Oui.
Quand vous avez parlé de la Normandie tout à l'heure, ça m'a fait penser à tous ces bombardements, toute la destruction.
Oui.
Est-ce que ça aurait été pour quelque chose dans la Renaissance, pour stimuler?
Peut-être, oui.
Étant donné qu'il fallait tout refaire.
Oui. Au point de vue religieux, enfin au point de vue vitrail religieux, oui, c'est possible. Ça a donné, tout au moins dans cette région-là, ça, il y avait un problème, il fallait absolument refaire quelque chose. Et il y a eu des dommages de guerre, ça les a aidés au point de vue crédit. Donc on a fait énormément de vitraux et je crois que ça a entraîné d'autres églises qui n'avaient pas été détruites, mais qui avaient des fenêtres sans aucun intérêt ou en mauvais état. Et automatiquement, les curés de la région ont suivi le mouvement, ça c'est certain. C'est certain. Dans le reste de la France, vous savez, j'y crois moins. Quand vous allez au milieu de l'Auvergne, par exemple, qui a l'influence normande de la Normandie, j'y crois beaucoup moins.
Et pour l'étranger?
Pour l'étranger, ben, on a travaillé un petit peu pour l'exportation, pour le Canada, l'Amérique, un petit peu, enfin les États-Unis. Puis j'ai travaillé une fois en Suisse. Mais enfin, c'est encore. J'ai des confrères qui travaillent beaucoup pour l'exportation, mais il faut toute une organisation commerciale importante, très différente de notre atelier, quoi. Et j'ai un très bon confrère à Chartres, justement, mais lui a toute une chaîne de représentants en Amérique. Alors là, ça suppose vraiment une organisation importante. C'est un autre genre de travail. Enfin, ça peut arriver.
Enfin, jusqu'ici, nous avons parlé des vrais vitraux. Des,
oui.
Des vitraux bien conçus.
Enfin, traditionnels, si j'ose dire, oui.
Mais, enfin...
J'ose toujours pas vous offrir
ça, non? Merci, je préfère vraiment le filtre. Enfin, si
non, merci. Dire, alors, moi, je préfère le filtre.
Chacun pour soi.
Oui, il le faut, d'ailleurs. Tout le monde n'est pas la vie, semblable.
J'ai vu dans le temps, du côté vitrail horrible,
oui.
Des catalogues.
Ah oui, alors ça c'est...
On achète au catalogue, est-ce que ça se produit toujours?
Non.
Dieu merci.
À ma connaissance, non. Quoique, il y a encore des curés qui de temps en temps vous écrivent, envoyez-moi votre catalogue. Alors ça me met dans des rages folles.
Ah.
Non, c'est impensable.
Pourtant, ça arrivait.
C'est arrivé, au 19e, oui. Au point de vue vitrail, on est arrivé à des choses ahurissantes. Au 19e, on coupait, par exemple, des personnages, mais par 10 ou 20, n'est-ce pas, tous les mêmes, n'est-ce pas, et on les mettait à l'atelier. Et puis, alors, il y avait un catalogue, moi, je veux Saint-Gaston, par exemple. Ah bon, Saint-Gaston, il était évêque, oui. Voilà, tel numéro, vous voyez, le personnage, on va vous mettre une bordure, voilà, ça y est, c'était parti. Le verrier n'avait vu ni l'édifice, ni l'éclairage, ni rien. Affolant. Et puis alors, très souvent, il y avait un donateur qui exigeait que ce Saint-Gaston, par exemple, ait son visage.
Ah.
Ah bon?
Ah oui.
À ce point-là?
Ah oui. Alors là, à 30 km d'Orléans, je connais une église où il y a un saint, enfin, je sais pas quoi, appelons-le Léon, si vous voulez, qui a des moustaches 1900 en guidant de l'eau. C'est effrayant. Ah oui. Alors on a repris le même personnage prévu au départ, mais
Oui.
on a fait la tête du donateur.
Personnalisé après coup.
Oui.
Oula.
C'est affolant.
Enfin, ça relève du blasphème de toute façon,
Oui,
non?
enfin, de la bêtise, surtout.
Oui.
Mais d'un sens commercial assez développé, parce que là, il gagnait beaucoup d'argent. Enfin, je pense que c'est à éviter.
Et côté technique aussi, je crois qu'il allait y avoir une forte. Enfin,
Non.
esthétique, technique
Ah,
esthétique.
au point de vue esthétique, oui, bah, on
Étant
est
donné qu'il y
allé.
avait eu la rechute, je vois d'après cette maquette que vous montrez que le dessin s'exécute par le plan.
Oui, ça c'est la vieille technique du Moyen Âge. Vous savez, le vitrail, pour que ce soit et que ce reste, ça reste un art monumental, il faut pas se perdre dans des petites choses bien peintes, bien mignonnes. C'est pas un tableau de chevalet qui doit être
Oui.
vu à hauteur d'œil. C'est un vitrail, c'est fait pour être accroché haut, à moins que ce soit chez un particulier. Bon, ça c'est un problème différent. Mais le vitrail d'église, le vitrail de monument, si vous voulez, il faut que ce soit monumental, comme une fresque, comme une tapisserie. C'est pas
Oui.
du petit détail. Eh bien, au Moyen Âge, ils employaient ces techniques-là, le verre, le plomb, quelquefois le réseau de fer qui lui aussi faisait un dessin, à
Oui.
Chartres,
Ah oui, la charpente, pour ainsi dire.
oui, c'est ça, l'ossature. Et puis, cette peinture noire, et c'est tout. C'est quand on a commencé à introduire les émaux, les
Oui.
grisailles de couleurs, les choses comme ça, qu'on a affadi l'histoire.
Enfin, toute une confusion entre le vitrail et
Et la peinture de
la peinture
chevalet,
sur verre.
bien sûr, bien sûr.
Et les plans, c'était là un peu par hasard.
Oui, oh ben les plombs servaient à lier des pièces rectangulaires sur lesquelles on avait peint, on avait tripoté, on avait fait un tas de choses, mais c'est plus du vitrail.
Oui, ça a commencé à rejoindre un peu Walt Disney,
Si vous
l'art de
voulez,
faire de
pourquoi
la
pas,
ligne.
oui.
Est-ce que la collaboration avec les architectes est fructueuse en général?
C'est méchant ce que je veux dire, mais très rarement.
Ah oui?
Là, c'est encore plus méchant, mais vous savez, il n'y a pas beaucoup de bons architectes.
J'ai très souvent l'occasion de constater cela.
Il n'y a pas beaucoup de bons architectes. Alors, Dieu merci, il y en a quand même quelques-uns, et j'en connais deux ou trois particulièrement où. Quand ils ont un problème, par exemple, d'une église moderne à construire, bon, ils arrivent à se grouper avec des gars comme nous. On a eu justement cette église de Rodez, là. Bon, ben, c'est un sculpteur qui a fait le plan de masse. L'architecte, lui, a étudié l'architecture d'après le plan de masse du sculpteur. Mais en même temps, on s'est rencontrés, nous, verriers. C'est un de mes amis qui est peintre à Paris qui avait fait la partie artistique, moi j'ai exécuté, mais tout le monde s'est groupé pour essayer dès le départ, de faire quelque chose de cohérent, parce que très souvent les architectes créent quelque chose, puis au dernier moment ils se disent, ah mais il y a des trous, il y a des vitraux, et quand tout est fait, on n'est pas responsable de l'architecture, on n'y peut rien, on se place devant des problèmes qui vraiment ont été mal étudiés au point de vue vitraux dès le départ.
Oui. Enfin, idéalement, vous aimeriez être là
Ben, moi je crois au
sur le
travail
terrain, du
d'équipe.
moment qu'il n'y aurait que le terrain.
Pourquoi pas, mais même sur les maquettes, même sur les
Oui.
croquis, sur les ébauches, surtout. on peut dire à un architecte, eh ben, vous voyez, vous, c'est très beau, vous mettez des poteaux de béton comme ci, comme ça, mais là, vous allez avoir un problème d'aveuglement, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen, puis alors cette surface de verre va être trop importante, est-ce qu'il n'y a pas moyen de jouer sur les formes, les volumes, les choses comme ça, en tenant compte de nous qui vous apportons ceci?
Oui.
Voyez-vous? Alors que l'architecte, lui, fait son truc, et après vous vous dites, ben voilà, il y a ça à faire. Et ça, c'est idiot.
Problème. Enfin, vous devez pas faire à rectifier.
Ben, on essaie d'atténuer, si vous voulez, certaines choses, de compenser, de... mais c'est pas normal.
C'est triste, mais...
Ben oui, c'est triste. Oui, c'est triste.
Il y a un cas précis, j'aimerais votre opinion.
Oui.
Je pense à cette église qui est sur le boulevard de Québec.
Oui.
L'église,
je la connais très bien, oui. Oui.
Moi aussi, j'en suis très impressionné.
Oui.
Mais c'est quoi, au juste, comme technique?
C'est du polyester.
Oui, enfin...
qui sont faits par
la paroi extérieure.
Oui, qui sont créés par un de mes amis, justement, avec qui je fais beaucoup de vitraux.
Et s'il fallait classer ce travail, ce serait dans quelle catégorie?
Au point de vue artistique ou au point de vue technique?
Les deux. Étant donné que c'est tout le bâtiment qui est... ça comprend tout le bâtiment, pour ainsi dire.
Oui. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est peut-être qu'une expérience, tout au moins au point de vue polyester. Hein.
Oui.
Je crois qu'on arrivera à pousser cette technique-là et à avoir des résultats satisfaisants, mais là, c'est plutôt une expérience. Au point de vue durée dans le temps, je ne sais pas ce que ça va donner, ça.
Ah.
Enfin, je trouve ça intéressant d'avoir des grands murs translucides. Moi, j'aime bien. Hein.
Ah oui, ça crée une atmosphère très spéciale, très propice.
Qui a remué un peu toutes les vieilles dames d'Orléans.
Mais comment est-ce qu'on a réagi?
C'est très curieux, c'est où on est pour, où on est contre.
Bon signe.
Oui, c'est plutôt bon signe. Évidemment, à partir d'un certain âge, on a réagi... enfin, ce que je peux dire, le mauvais sens. On a dit, oh, c'est plus notre église, c'est plus l'église traditionnelle, on ne peut pas prier là-dedans.
Ah bon.
Mais jusqu'à 40-50 ans, je crois qu'on a pas mal réagi du tout.
Ah bon, enfin, on n'a quand même pas jeté des pierres.
Non. Certains ont critiqué violemment, mais sans jamais rentrer à l'intérieur, de l'extérieur.
Ah bon?
Ça, c'est pas une opinion valable, à mon avis.
Ouais, non, ça compte pas.
Non. Mais je crois que c'est intéressant.
Et les autres expériences, parce qu'il y a tout de même des choses très intéressantes qui se font. Je pense par exemple à Guillaume Gillet.
Pardon?
C'est Guillaume Gillet, n'est-ce pas?
Oui.
Avec ses voiles de béton, l'église Royan.
Oui. C'est intéressant. Ben, faut voir ça. Faut voir ça.
Vous connaissez?
Oui.
Vous êtes allé?
Oui.
Alors, est-ce que vous pourriez décrire un peu?
Moi, je trouve ça intéressant, mais ce qui, c'est pas mal, hein. Mais ce qui me gêne un petit peu, c'est que tout en se servant du béton, qui est un matériau actuel, comment je pourrais vous expliquer? On a des réminiscences, si vous voulez, dans le volume, d'une église ancienne.
Oui.
On est moderne par le matériau, mais on n'a pas osé aller très trop loin, vous comprenez? On a voulu ménager un petit peu. Quoique c'est très actuel, mais à mon sens, je trouve que c'est encore pas assez actuel. J'aime mieux 100 fois Ronchamp, par exemple.
Ah oui. Oui, là, vous savez...
Parce que là, vraiment, Ronchamp, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez?
Ah oui, Ronchamp, je connais.
Ça, moi, alors ça... seulement, faut être le père de Corbusier pour réussir ça.
c'est pas donné à tout le monde.
Ben non, parce que s'il y en a une qui a été construite dans le même esprit à Nevers, récemment, et là, à mon sens, c'est un désastre. Un désastre, on croirait un blocus du mur de l'Atlantique.
Ah oui, c'est Nevers, c'est...
Dans une espèce de...
Le glaçant encastré.
Oui, alors là, on s'attend à voir sortir un canon de marine, ou je sais pas quoi, mais c'est... Non, franchement, non, il n'y a pas le petit côté génie de Le Corbusier, quoi. Alors que Ronchamp, c'est formidable.
Oui, tout en plus qu'à Nevers, ça pourrait servir de pas mal, à pas mal d'autres choses, alors que Ronchamp...
Oui, Ronchamp, c'est vraiment très religieux, oui. Il se passe quelque chose dans cette église-là. À Nevers, il ne se passe rien du tout. Il n'y a rien. Rien.
Alors, c'est un cadre pour des activités communales.
Oui. Mais Royan, c'est quand même intéressant. Royan, c'est intéressant. Seulement, évidemment, on voit ça parce que c'est tout même construit depuis 20 ans maintenant.
Tant que ça?
Ah, mais c'était construit après la guerre.
Ah bon? Je savais pas que c'était si ancien.
Oui. Et finalement, c'est un degré, si vous voulez. Mais quand on voit avec le recul, moi, je trouve qu'on n'a pas été assez loin.
Est-ce qu'il a fait autre chose depuis?
Je ne sais pas. Ça reste, si vous voulez, d'aspect. Enfin, pas dans le détail, dans le volume d'aspect, ça reste traditionnel.
Oui, un peu. Le vaisseau et l'élément qui monte. Sur le plan sténo, la nef, le clocher.
Oui, c'est ça, c'est... Oui. Enfin, c'est pas mal quand même. Hein.
Enfin, le jeu du béton est...
Oui, c'est, au point de vue technique, c'est très bon.
C'est quelque chose de rigoureux dans les volumes.
Oui, non, c'est...
Mûr,
non,
non,
c'est la petite réminiscence traditionnelle qui me gêne. C'est un grand mot, mais enfin...
Non, je vois ce que vous voulez dire.
Oui, mais ça c'est quand même très... C'est bien, je crois que ça restera, ça marquera une époque, quoi. Oui.
Est-ce que vous trouvez que Orléans donne un cadre propice pour votre travail?
Oui, non, vous savez, au point de vue artistique, Orléans, c'est pas tellement valable, parce que nous sommes très proches de Paris.
Ah bon?
Et dès que nous avons des éléments vraiment intéressants au point de vue artistique, ou même des amateurs éclairés, mais qui ont des personnalités, même dans un autre métier. Il y a l'attirance Paris, avec tout ce que ça implique, comme facilité, comme développement, etc. Et vraiment, on est gêné par la proximité de Paris, certainement. Mais nous avons aussi des facilités, parce que s'il y a une bonne exposition à Paris, on prend le train, on y va.
Oui, il y a le côté positif aussi.
Voyez-vous, il ne faut pas tout voir en noir. Enfin, je crois que ces braves Orléanais, le côté artistique, c'est parce qu'ils les préoccupent le plus.
Ah bon?
Non, je pense pas. Enfin, à part un minimum indispensable, mais enfin, vous savez.
Qu'ils prennent le train ou qu'ils prennent la voiture,
oui,
ils
vont voilà. Les en besoin. Voilà, c'est ça. C'est ça.
Mais la ville elle-même. Oui. Alors, enfin,
oui, je crois qu'il y a quand même un peu de changement parce que la souche orléanaise, vraiment orléanaise, bourgeoise, si vous voulez, maintenant se trouve noyée sous les apports de différentes villes et même des Parisiens qui descendent.
Ah bon?
Alors ça fait une espèce de brassage, ça change quand même l'esprit des gens, leur façon de voir, leur façon...
Oui.
Dire qu'ils soient vraiment, vraiment très, très passionnés par les côtés artistiques et esthétiques, j'en suis pas persuadé. Mais enfin, il y a quand même un petit renouveau.
Et ça depuis quand?
Bon, c'est... 10-15 ans quand même.
Ah bon?
Oui.
Ouais, par exemple, ce nouvel essor d'expansion.
Oui, moi je crois que c'est...
la source.
Oui,
par exemple,
oui. Ben oui, regardez à la source, par exemple, les Orléanais admettent certaines architectures qui leur auraient semblé impensables il y a 15 ans, parce qu'ils la voient à la source maintenant.
Oui.
Bon, alors. Enfin, c'est pas très profond.
Surtout du côté industriel.
Oui. Oui, mais si, il suffit qu'il y ait un exemple, qu'il soit industriel
oui.
ou non.
Oui.
Vous savez, les braves gens sont des moutons, hein, ils suivent, il suffit qu'on leur dise, qu'on leur présente une chose, c'est comme de la publicité, on leur présente une chose plusieurs fois, ils arrivent, même s'ils pigent pas très bien au début, oui. ils arrivent à s'habituer, donc ils admettent, alors ils avancent un petit peu, et alors on leur présente autre chose, on leur refait voir, alors ils avancent encore un petit peu.
Par exemple, le palazzo de l'EDF, GDF.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
La source, là?
Oui.
Je ne suis pas contre.
C'est assez spectaculaire.
Oui, oui. Pour Orléans, c'est très spectaculaire.
Oui.
Moi, je...
Bon. Et la source, sur le plan général, du côté plastique?
Il y a des choses pas mal, mais il y en a d'autres.
Enfin, d'un côté Beauchamp, de l'autre côté le campus, parce que je crois qu'ils sont séparés.
Vous savez, je connais pas, on circule pas tellement facilement là-dedans. Puis ça fait bien 6 mois que j'y suis pas allé.
Il faudrait y aller.
Alors, il faut y retourner.
Si ça fait 6 mois que je suis pas allé, il y a des changements.
Oui, certainement.
Très important. Enfin, du côté. Des cités, pas tellement.
Mais enfin, je crois que. Je crois que ça ne peut être que bénéfique pour la ville. Aussi bien au point de vue, comment dirais-je moi, logement pur, ambiance de vie, et puis même au point de vue artistique, ça habituera les gens à voir autre chose que des petites maisons comme dans ces rues-là. Où ça va créer un autre état d'esprit, je pense. Je pense. Si on n'arrive pas trop à le rendre uniforme et impersonnel, comme beaucoup de villes, mais enfin...
J'ai également vu la maison de culture, enfin la maison provisoire.
Oui.
Est-ce que ça a produit des renouveaux?
Non. Non.
Enfin, c'est assez récent. Est-ce que vous croyez qu'il y a des possibilités de ce côté-là?
Toujours pas dans le local où ils sont actuellement.
Oui.
Déjà. Puis, vous savez... Moi, je connais bien celle de Bourges, qui est assez renommée. Finalement, il y a eu une espèce de flambée au départ, et puis... Je pense pas que ce soit le meilleur moyen de toucher les gens.
Comment, les maisons de culture en général?
Oui. Je suis un peu sceptique. J'espère me tromper, remarquez. Hein. Mais j'ai pas l'impression que ça touche beaucoup. Même les jeunes... Ils y vont là-bas pour s'asseoir dans un fauteuil profond, fumer une cigarette, rencontrer une petite copine. Mais vraiment, la culture en elle-même, je ne sais pas, j'ai peur que non. C'est dommage, d'ailleurs.
Enfin, la culture, c'est un grand mot.
Oui.
Enfin, qu'est-ce que c'est la culture? Parce que...
La culture...
Ça s'écrit toujours avec des majuscules.
Oui, bien sûr, la culture... C'est un monde, ça peut être une façon de vivre, la culture, ça peut être, je sais pas moi, c'est difficilement explicable. Enfin, on pourrait, si on réussissait déjà auprès des jeunes à leur apprendre à apprécier une belle chose, qu'elle soit ancienne ou moderne, et qu'ils comprennent pourquoi elle est belle, ça serait déjà une forme de culture qu'on leur apporterait, et qu'ils n'ont plus maintenant, malheureusement... ou apprécier un beau morceau de musique, ou même se tenir correctement, c'est aussi de la culture. Ça.
Oui.
Et puis ça, ils ne le savent plus non plus.
Non, parce que pour tout vous dire, j'ai l'impression que, quelquefois, lorsqu'on regarde entre les guillemets qui entourent le mot culture,
oui.
c'est une sorte de paquet surprise, enfin, qui n'a pas de surprise, parce que
oui.
il y a toile non figurative,
oui.
Terre de poche
oui.
et Zénakis.
Voilà. Bon, bah, y a un peu ça aussi. Alors là, je vais aller jusqu'au bout. Moi, je ne fais pas de politique, je vous l'ai dit au commencement, mais j'ai l'impression que c'est un organisme qui, au départ, l'idée est bonne, l'idée est belle, mais finalement, c'est devenu ce qu'on appelle un panier de crabes. On a placé un tas de gens qui sont peut-être très bien. Enfin, on leur a dit, voilà, vous allez être très bien. Et puis, ils ont un bon petit fromage. Et puis, finalement, l'idée s'est vidée des grands buts du départ. Et puis, finalement, on s'englue dans une routine sans porter, quoi. J'ai peur de ça.
Je demande s'il n'y a pas déjà un problème inhérent de ce côté-là, dans la mesure où la création d'une maison de culture risque de transformer certaines choses en institutions.
En art officiel. Peut-être ça, oui, peut-être.
Parce que la Misenakis devient en quelque sorte un nouveau jeu du
monde. Oui, patenté.
Oui.
Oui, ça, c'est gênant. C'est gênant.
Je sais, lui-même, il en est conscient. Et ça
l'a s'il en a conscience, on va peut-être pouvoir, il va peut-être pouvoir se sauver. C'est à lui de réagir.
Hein. J'ai l'impression que ça vient.
Bon, ça va. Ça va. Oui, moi j'ai peur que ça devienne une institution pieuse.
Ah bon, oui.
Voyez-vous.
Ça risque pas de devenir un peu de monopole d'un,
c'est
ça. D'un groupe, d'un milieu.
Ben oui, oui.
Bon.
Moi j'ai peur, et c'est un peu ce que je vous disais avant, c'est que ça devient le monopole d'un milieu, et puis alors ça devient le fromage où on place justement les gens de ce milieu qui, pour des raisons X, n'ont pas pu faire autre chose, qui peuvent peut-être...
Il me semble que ce n'était pas tout à fait l'idée du début.
Mais non, mais c'est comme toutes les idées au départ. Toutes les idées, moi, elles sont certainement très valables, très belles, toutes les idées. Seulement, c'est dans l'application où on commence à se rendre compte vraiment, puis au bout de, avec 5 ou 10 ans de recul, on s'aperçoit qu'on est passé complètement à côté du but, puis que l'idée du départ, c'est fichu, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un peu pessimiste, mais j'ai un peu peur de ça, quoi.
À part la maison en question, qu'est-ce qu'il y a sur le plan, pardonnez le terme culturel,
à Orléans ?
Oui.
Pas grand-chose.
La première chose que j'ai remarquée en arrivant, pour des raisons personnelles, c'est qu'il n'y a aucune galerie de tableaux.
Non. Mais alors là, ça tient un petit peu au problème que je vous exposais tout à l'heure, c'est la proximité de Paris.
Oui.
Voyez-vous ? Il est bien évident que pour l'élite, enfin pour l'élite si vous voulez, restreinte d'Orléanais appréciant la peinture et qui au besoin veut s'offrir une bonne toile, bon, pourquoi irait-elle dans une galerie de tableaux orléanaise où elle verra une exposition tous les 2 mois d'un peintre alors qu'elle, à 110 km, 120 km d'ici, elle pourra en 2 jours visiter 50 galeries parisiennes et voir 10 expositions valables.
Oui.
Voyez-vous, alors ça, il faut comprendre aussi les Orléanais. On leur offre une bouchée de pain ici, alors qu'on leur offre un pain entier bien rôti à Paris. Donc, voyez-vous, ça c'est valable au point de vue artistique, mais c'est valable même au point de vue, même, c'est moins élevé, si vous voulez, mais une boîte de nuit, par exemple, avec attraction. À Orléans, vous n'aurez jamais ça.
Pourtant là, j'aurais cru cela un peu plus faisable, ne serait-ce pour des raisons matérielles, du moins qu'il faut ajouter une heure et demie de trajet après.
Oui, mais il y a le côté aussi pudibond, pudique, bourgeois du vieil Orléanais. Si on vous voit dans un local nocturne, on dit tout de suite, oh là là, on a vu monsieur regarder un spectacle de striptease, par exemple. Alors c'est très mal vu, alors qu'il y en a de très beaux, moi je suis pas contre, hein. Bon. C'est très petit bourgeois encore comme esprit.
Ah bon.
Alors que le même Orléanais prend sa voiture ou son train et va à Paris où il ne connaît personne. On n'ira pas, dites donc, hier vous étiez en train de regarder Lolita qui faisait son striptease, on ne l'ira pas.
Ah.
Il y a ça. Donc proximité de Paris encore.
Oui. Et là pour les spectacles où on ose se montrer.
Mais il y a le théâtre. Avec le local que vous connaissez peut-être, qui est en dessous de tout. Heureusement qu'on va nous en construire un autre, j'espère. Enfin, on en parle beaucoup.
Dedans ?
Oui, oui. Oui, j'espère. Alors là, à ce moment-là, on va pouvoir aller au théâtre. Moi, je ne vais jamais au théâtre à Orléans, parce que c'est une ancienne église transformée, et vous avez toujours une colonne devant la tête. Toujours. Alors... au point de vue décor, on vous mettra très facilement, si vous allez voir par exemple les Trois Mousquetaires, on vous mettra un fauteuil Louis XV sur la scène, mais enfin ça c'est pas grave. Bon, il y en a beaucoup que ça ne gêne pas, moi ça m'embête.
Oui.
Et oui, c'est resté encore le petit théâtre province. Quoi qu'il y ait de bonnes troupes quand même qui viennent, mais le local vraiment ne se prête pas à un théâtre valable, quoi. Ça, il n'y a pas de doute.
Et sur le plan de la musique
Il y a une société de musique orléanaise, il y a le conservatoire qui donne des concerts. Moi, je suis pas, j'y vais pas. Mais enfin, si, là, il y a eu un effort, peut-être.
Ah, il y a pourtant une activité.
Oui, oui, il y a une activité. Pour ça, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques sociétés culturelles, mais qui végètent. Oui, je sais pas.
Je suis allé dans quelques-unes.
Oui, c'est pas passionnant, en général.
J'ai trouvé passionnant, mais peut-être pour de mauvaises raisons, parce que ça m'intéressait du point de vue entomologique.
Si ah bon, oui. Oui, mais enfin...
Par ce qui se passe,
vous avez une société d'archéologie ici qui se débrouille un petit peu, qui a l'air de vouloir remonter.
Là, ils ont les matières premières.
Oui. Et là, il y a un effort, et c'est assez récent, hein, ça date aussi d'une dizaine d'années. Enfin, elle existait avant, mais enfin, là aussi, elle végétait. Hein.
Bon, le cadre ici de l'archéologie, c'est intéressant, parce que là...
Oui, 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 oui.
À assez grande échelle.
Oui. Enfin, certains jeunes commencent à s'intéresser à ces choses-là. Enfin, bon. Alors, ça a amené des éléments nouveaux. Oui, c'est pas mal, ça.
Il me semble que ça touche tous les âges, tous les milieux aussi,
oui.
L'archéologie.
Oui. Ben, puis, c'est aussi de l'influence de la télévision. On en parle à la télévision.
J'avais demandé.
Mais oui, ça, c'est certain. Ça, c'est certain.
Ça s'est produit en Angleterre et on peut imputer ça à une série d'émissions.
Mais bien sûr.
Une série précise.
Mais bien sûr.
Il y a quelques années.
Ça, je le crois volontiers. Vous savez, cette bande son de télévision, si on vous répète tous les jours, achetez la pâte, je ne sais pas quoi, eh bien, je suis persuadé qu'au bout de 2 ans, ou d'un an, ou de 6 mois, 60% des gens acheteront les pâtes, je ne sais pas quoi. Ben, l'archéologie, c'est un peu ça. Hein.
Oui.
Enfin, j'exagère un peu, mais...
Mais donc, c'est le côté positif de la télévision.
Oui, mais oui, 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 oui. Oui, certainement, oui. Oui.
Est-ce que, pour revenir à Orléans, est-ce que sur le plan social, c'est très structuré? Est-ce qu'il y a des cloisons étanches entre...
Moins, mais il y en a encore.
Ah bon?
Vous voyez, je suis orléanais, vous le savez. Je suis donc d'une famille, enfin, je ne veux pas avoir l'air prétentieux, mais enfin, relativement aisée, connue, etc. Et dans ma jeunesse, on ne sortait qu'entre jeunes. De même niveau, si vous voulez, de genre de famille, etc. Maintenant, ça existe moins, mais il y a quand même des petits clans. Il y en a qui ne sortiront jamais avec les autres parce que il y en a un qui est directeur d'usine, dont les parents sont directeurs d'usine, et l'autre n'est que contremaître ou des choses. Ça tend à diminuer, mais enfin, il y a encore un vieux fond d'esprit comme ça.
Ah bon?
Que je trouve parfaitement ridicule d'ailleurs, enfin.
Donc ces groupes, ces clans se constituent un peu en fonction des parents
des conditions sociales, oui. Mais enfin, ça tend à disparaître. Je crois encore grâce à l'apport de beaucoup de gens de l'extérieur.
Oui.
Mais enfin, la souche orléanaise, on est encore en 1880. Hein.
Ah bon?
Ah oui. Oui, un peu.
Cette souche orléanaise, qu'est-ce qu'elle fait, de façon générale? Parce que
elle se croit beaucoup.
Quelles sont ses activités? Quel genre de profession?
Oh, c'est très variable. C'est, vous savez, cette bourgeoisie, il y avait d'abord beaucoup de fermiers de Beauce qui s'enrichissaient et qui venaient se retirer à Orléans. Bon. Puis après, il y a eu au 19e, à la fin du 19e, vous avez eu des fabriques, des choses comme ça, qui a créé aussi une bourgeoisie. Donc, il s'est créé une espèce de couche, comme ça, de gens ayant certains moyens financiers, quoi.
Oui.
Sans ça, au point de vue activité même, il y a des commerçants aussi, des choses comme ça, oui. Toutes les grandes activités qui se développent maintenant, si vous voulez, c'est plutôt des apports de l'extérieur.
Ah oui.
Oui, je pense.
Enfin, les commerçants étaient admissibles.
Les commerçants, oui. Enfin, déjà, le commerçant, plus lent, enfin sérieux, posé, oui, je crois, oui.
Là, la comparaison devient intéressante, parce que si on regarde le système de barrières, mettons,
oui, oui,
dans les deux pays, côté 1880, comme vous dites,
oui,
côté anglais, le commerce, non.
Ah bon?
Ah non. Par définition, le commerce, pour la pratiquer, pour le pratiquer, c'est vraiment pour l'abolition du genre grammatical. On s'abaissait,
oui,
au commerce.
Ah oui.
Par définition, ce serait quelque chose à l'échelle des galeries Lafayette, on s'abaissait quand même.
Ah bon? Oui. Tandis que là, non. Non, évidemment, si vous devenez le petit épicier du coin, là, voyez-vous. Mais si vous avez un très beau magasin, enfin je dis n'importe quoi, par exemple La République, un très grand magasin de chemiserie, d'articles de luxe, ou de bijouterie, ou de choses comme ça, là vous êtes admis.
Ah.
Voyez-vous.
Et
je peux me tromper, mais enfin...
Les professions libérales, où est-ce qu'elles entrent dans ce schéma?
Ah oui, oui, oui.
Ah, du bon côté.
Oui, enfin, si vous appelez ça bon, je veux dire. Oui.
Ah, du bon côté, seuls les petites qui sont de ce côté-là.
Voilà, oui, je crois, oui. Oui, je crois.
Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a?
Bon, il y a énormément de gens très bien, vous savez. Oui. Très, très bien. Justement, tous les petits commerçants, les petits entrepreneurs, les cadres, même les ouvriers, pourquoi pas.
Oui.
Mais, enfin, je ne veux pas exagérer, hein, ça tend à disparaître quand même. Enfin, il y a quelques vieilles familles réductibles, je ne suis pas du tout contre la noblesse, ni des choses comme ça, mais enfin, vous savez, il y a encore des anciennes familles, des choses comme ça, qui sont à moitié ruinées d'ailleurs, mais qui tiennent encore à penser des privilèges, si vous voulez.
Alors ça persiste, mais moins.
Moins, oui, oui. Dieu merci. Dieu merci. Et ça va de plus en plus vite pour disparaître, je pense.
Effectivement, il y a une accélération
constante. Oui, 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 je crois, oui. Oui.
Bon, écoutez, monsieur, je vous remercie.
Mais c'est la moindre des choses, non? Vous m'avez fait beaucoup bavarder, là.
Enfin, c'est...
dire certainement beaucoup de bêtises, mais enfin... Bon,
s'il y a des bêtises, je n'en ai pas remarqué.
Ah, vous êtes trop aimable. Vous êtes trop aimable. Je peux...